Pour l'heure, il est 18h. Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Réforme du statut de la SNCF et de ses cheminots, fermeture de petites lignes. Le rapport de Jean-Cyril Spinetta fait bondir les syndicats. Matignon annonce une première phase de concertation dès la semaine prochaine. Avocats, magistrats et greffiers mobilisés contre les chantiers de la justice lancés par la garde des Sceaux. Les manifestants dénoncent une réforme purement gestionnaire. Cyril Ramaphosa, élu président de l'Afrique du Sud, pour bien montrer que la page Zuma est tournée, le nouveau chef de l'État s'engage à faire de la lutte entre anti-corruption une priorité. Et puis, la Chine bascule dans l'année du chien, l'occasion de plonger dans la culture traditionnelle chinoise avec Dominique André. Un diagnostic sévère et des solutions draconiennes. Voilà la tonalité du rapport sur la SNCF que Jean-Cyril Spinetta vient de remettre à Édouard Philippe. Le diagnostic d'abord, aux yeux de l'ancien président d'Air France, la situation du transport ferroviaire est préoccupante. Ses performances ne sont pas satisfaisantes, elle a des progrès à faire en termes de régularité, gestion des crises, information aux voyageurs, sécurité. Le rapport pointe également un financement gravement déséquilibré et l'absence de réelles incitations à l'efficacité. Mais, assure Jean-Cyril Spinetta, le ferroviaire français a devant lui, s'il prend les mesures adaptées, toutes les conditions d'un avenir pérenne. Bonsoir Moyoen Borodron.
Bonsoir Aurélie.
Les mesures préconisées sont radicales.
Radicales au point de faire dire au syndicat Sudrail que le rapport va mettre le feu à l'entreprise. Exemple de proposition qui risque de déclencher un conflit social de grande ampleur, la fin du statut des cheminots. Un statut qui leur garantit notamment l'emploi à vie. 90% des salariés de la SNCF en bénéficie actuellement. Ils ne peuvent pas être licenciés, sauf faute grave. Eh bien, Jean-Cyril Spinetta suggère que les nouvelles embauches se fassent sous le régime contractuel, comme c'est déjà le cas pour 15 000 salariés de l'entreprise publique aujourd'hui. L'ancien patron d'Air France se veut rassurant. Il s'agit, je cite, d'ouvrir une réflexion. Le cadre conventionnel n'est d'ailleurs pas précisé dans son rapport. Et Jean-Cyril Spinetta d'ajouter que La Poste et France Télécom ont déjà appliqué cette réforme. Autre recommandation, faire le bilan socio-économique des petites lignes de train. Il ne s'agit pas d'appeler à fermer ou maintenir telle ou telle ligne, c'est ce que souligne Jean-Cyril Spinetta. Il appelle plutôt à un audit.
Il y a des lignes sur lesquelles circulent moins de 5 trains par jour. Moins de 5 trains par jour, c'est entre 100 et 200 passagers par jour. Bon, voilà. Est-ce qu'il faut maintenir des lignes ferroviaires sur lesquelles il y a 100 à 200 passagers par jour, ou même 300, ou même 400, ou même 500, alors qu'une grande ligne de bus dans Paris transporte 50 000 passagers par jour? Voilà, c'est du genre de questions toutes simples qui se posent, mais c'est pas très compliqué. Hein.
Objectif, faire des économies pour réinvestir dans les lignes les plus utilisées. Selon lui, 90% des voyageurs n'utilisent que 30% du réseau. Il faut donc, je cite, prioriser les choix. On investit mal dans le ferroviaire, c'est l'analyse de Jean-Cyril Spinetta. Avec une dette en hausse de 3 milliards d'euros par an, la SNCF a préféré investir dans les lignes à grande vitesse plutôt que dans l'entretien de ses infrastructures. Le rapport Spinetta propose donc d'investir 400 millions d'euros supplémentaires par an pour améliorer le système ferroviaire existant.
Maïwenn Bordron, Matignon indique qu'un dialogue avec l'ensemble des acteurs concernés s'ouvrira dès la semaine prochaine. L'ultime séance de négociation sur l'assurance chômage se conclura-t-elle sur un accord? Rien n'est moins sûr. Les partenaires sociaux doivent transmettre au gouvernement un texte commun portant sur l'extension du régime d'assurance chômage aux indépendants, sur l'indemnisation des salariés qui démissionnent avec un projet de reconversion et sur la mise en place d'un dispositif de lutte contre les contrats précaires. C'est ce troisième dossier qui cristallise les oppositions et plusieurs négociateurs proposent d'ajouter une séance de discussion jeudi prochain. Robe noire et robe rouge côte à côte pour dénoncer la réforme de la justice. À Paris et dans plusieurs villes de France, avocats, magistrats et greffiers ont manifesté ensemble contre les projets de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Ils dénoncent une réforme purement gestionnaire quand il faudrait, selon eux, doter la justice de véritables moyens. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir Aurélie.
Vous vous êtes rendu devant le palais de justice de Paris.
Sur les marches du palais de justice, précisément, ils étaient une centaine en tout, les robes rouges et hermines des magistrats mélangées aux robes noires des avocats et des greffiers sous une pluie battante.
Avocats, magistrats, mobilisés pour la justice!
Tous dénoncent le piteux état de la justice française, des budgets dérisoires qui ont des conséquences au quotidien. Hervé Locu est le président de la chambre à la Cour d'appel de Paris.
Il y a beaucoup trop de jugements et d'arrêts à rédiger. Et malheureusement, on manque de greffiers, on manque de moyens informatiques, on manque même de papier parfois. pour tirer tout simplement les décisions rendues.
Un manque de moyens que constatent les magistrats et qui a des conséquences sur les justiciables. Basile Adair est vice-bâtonnier du barreau de Paris.
Des magistrats qui n'ont pas de bureau dans certains endroits, qui sont obligés de repartir avec tous les dossiers chez eux pour rédiger les jugements, ça c'est pas normal. Quelquefois, les jugements sont reportés et reportés, donc la justice n'est pas rendue. On a une mission commune fondamentale qui est que la justice de notre pays soit bien rendue, soit rendue dans des temps raisonnables et avec tous les moyens qui conviennent.
Et l'autre sujet de contestation, c'est la réforme de la carte judiciaire lancée par Nicole Belloubet. La crainte, c'est qu'elle éloigne un peu plus les contentieux du justiciable. Marie-Aimé Perron est bâtonnier de Paris.
Madame le garde des Sceaux indique bien qu'il n'y aura pas de fermeture de juridiction. Néanmoins, il convient de maintenir une activité devant toutes les juridictions. L'inquiétude du barreau et des magistrats, c'est en spécialisant les juridictions, de les éloigner du justiciable en obligeant à faire des centaines de kilomètres en plus pour pouvoir voir son dossier être traité.
Le projet de loi impulsé par le ministère de la Justice devrait être soumis au Conseil d'État début mars, puis passer en Conseil des ministres en avril, avant un vote au Parlement en début d'été.
Antoine Maretz, mardi, Édouard Philippe donnait le coup d'envoi de la réforme du système de santé, promettant d'apporter d'ici l'été les premières réponses au malaise des soignants et au déficit des hôpitaux. Les parlementaires communistes ont décidé, eux, d'aller sur le terrain pour constater les dysfonctionnements et pour les faire remonter à l'Assemblée et au Sénat. Ils ont donc entamé un tour de France des hôpitaux. Et vous avez suivi une rencontre à Longjumeau, dans l'Essonne, où une fusion d'hôpitaux est programmée, Delphine Marianboul.
Ils sont une petite centaine devant l'hôpital de Longjumeau. Tour à tour, les syndicalistes prennent la parole devant Pierre Laurent. Attentif, le sénateur communiste écoute, prend des notes sur ses colères locales.
Quand on sort du travail, on n'est pas content de ce qu'on a fait.
Nathalie Lemenet est aide-soignante. La voix presque tremblante, cette syndicaliste CGT décrit l'urgence quotidienne, celle qui use les soignants et leurs patients.
On n'a plus le temps de prendre le temps. Alors ça va paraître extrêmement cliché hein, ce que je vais dire, mais prendre le temps quand on voit un malade qui va pas bien, de s'asseoir tranquillement et puis de parler des fois deux, trois fois rien. Juste prendre le temps de parler, discuter avec un malade, ça fait partie du soin aussi.
C'est à peu de choses près le discours des personnels d'EHPAD selon Pierre Laurent.
Les personnels des EHPAD ont dit une chose simple, c'est que ce qu'on leur demandait de faire dans des conditions de plus en plus indignes n'était pas pour eux acceptable. Eh bien c'est la même chose que nous disent les personnels hospitaliers. C'est qu'ils ne supportent plus d'être obligés de mettre des malades dans les couloirs des hôpitaux parce qu'on a fermé des lits et qu'il n'y a pas assez de place dans les chambres. Tout ça doit être entendu au-delà des murs des hôpitaux.
Des colères qui pourraient bien s'étendre.
Je crois que les luttes qui se développent dans les EHPAD, dans les hôpitaux et dans d'autres services publics peuvent effectivement converger pour créer un mouvement de défense globale des services publics. Les Français se rendent compte que si on continue avec les politiques d'austérité actuelles, c'est tous les services publics qui vont être un à un massacrés et privatisés.
Ce tour de France des hôpitaux doit se poursuivre jusqu'au 22 juin. Objectif pour les élus communistes, faire converger les luttes de la rue jusqu'à l'hémicycle.
Combien y a-t-il de sans-abri à Paris? Malgré le plan hivernal et le plan grand froid, il y a toujours près de 3000 personnes à la rue la nuit, d'après le SAMU social, mais il s'appuie sur des informations parcellaires. Pour mettre fin au débat sur les chiffres et pour mieux dimensionner l'aide, la mairie de Paris organise donc ce soir la nuit de la solidarité. Encadrée par les associations qui luttent contre l'exclusion, près de 2000 bénévoles vont quadriller les rues de la capitale de 22h à 1h du matin, Cécile de Kervas-Doué.
Compter les sans-abri pour mieux leur proposer des solutions d'hébergement, cela se fait couramment et depuis longtemps dans des villes américaines comme New York, où laisser dormir les personnes dehors est illégal. Or, à Paris, le 115 refuse 80% des demandes d'hébergement, faute de place. Il était donc urgent de mettre l'État devant les chiffres et les responsabilités, explique Dominique Versini, maire adjointe chargée de la solidarité et de l'exclusion.
Tous les gouvernements ont augmenté l'hébergement d'urgence en mettant un plan hiver et en le fermant en mars. Ça veut dire que là, en mars, c'est plus de 2000 personnes qui vont se retrouver à la rue. Et c'est ça qui est plus possible. C'est pas juste je vois une personne jamais à l'abri. C'est comment après j'accompagne cette personne dans son parcours jusqu'à ce qu'elle sorte de la rue. Donc il faut aussi travailler en amont sur comment on évite les expulsions locatives. Par exemple, à Paris, il y a eu quand même 1500 expulsions locatives avant l'hiver.
Comme d'autres avant lui, le président de la République a promis qu'il n'y aurait plus de sans-abri. Mais les décisions budgétaires de son gouvernement le contredisent. Puisque cette année encore, la lutte contre l'exclusion est sous-budgétée et les ministères ministère de l'Emploi et du Logement ont vu leur budget réduit. À cela s'ajoute encore la question des migrants, explique Florent Guéguin, le directeur de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité.
Vous avez beaucoup de familles qui sont hébergées à l'hôtel, qui sont en fait soit des personnes sans titre de séjour, soit des personnes déboutées du droit d'asile, soit parfois d'ailleurs aussi des personnes qui sont sous statut Dublin, c'est-à-dire qui sont demandeurs d'asile mais qui relèvent d'un autre pays de l'Union européenne. Bref, ce sont les fameux ninis, hein, ni régularisables, ni expulsables. Et tant qu'on les régularise pas, ils restent dans l'hébergement. Donc c'est une énorme hypocrisie de ne pas agir, considérant qu'il y a un coût politique à régulariser aujourd'hui des étrangers qui sont là pourtant depuis plusieurs années.
Mais la régularisation n'est pas au programme de ce gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a même lancé une circulaire le 12 décembre pour recenser et, le cas échéant, expulser les migrants de l'hébergement d'urgence.
La Cour de cassation doit statuer demain sur la suspension ou non de la circulaire Collomb. Elle a été saisie par 26 associations de lutte contre l'exclusion. C'est une nouvelle page dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa a été élu aujourd'hui président de la République par le Parlement sud-africain. Il succède à Jacob Zuma en place depuis 2009 et que l'ANC a eu bien du mal à pousser dehors. Jacob Zuma, décrédibilisé par des scandales de corruption, a fini par démissionner hier soir. Et le nouveau chef de l'État espère incarner le changement. Le reportage de Lisa Fabian au Cap.
L'élection de Cyril Ramaphosa s'apparentait à une simple formalité pour le Congrès national africain. C'est le président de la Cour constitutionnelle qui l'a investi devant le Parlement.
I declare the honorable Madame Cyril Ramaphosa duly elected president of the Republic of South Africa.
Souriant, Cyril Ramaphosa a donné une brève allocution devant les députés.
Je me sens vraiment honoré d'avoir ce grand privilège de servir notre peuple. Et je vais travailler très dur pour tenter de ne pas décevoir les Sud-Africains.
Le nouveau président sud-africain s'exprimera plus longuement demain soir lors du traditionnel discours sur l'état de la nation. Cet événement majeur avait dû être repoussé il y a 2 semaines pour préparer la sortie de Jacob Zuma. Le président Cyril Ramaphosa devra ensuite nommer son gouvernement et s'atteler à redresser une économie sud-africaine plus que morose.
Par ailleurs, la police sud-africaine a émis un mandat d'arrêt contre l'un des frères Gupta, famille sulfureuse proche de Jacob Zuma. Ajay Gupta est recherché dans une affaire de corruption. La crise politique en Éthiopie aboutit à la démission du Premier ministre. Le pays vient de connaître les manifestations anti-gouvernementales les plus importantes en 25 ans. Ces derniers jours, il y a eu une vague de libération d'opposants et des promesses de réformes. Reste à voir maintenant si la démission du chef du gouvernement est le signe que les doléances des manifestants ont été entendues ou si elle est synonyme au contraire d'une reprise en main. À l'approche de l'élection présidentielle égyptienne, les arrestations de figures politiques de l'opposition se multiplient. Elles sont devenues quasi quotidiennes. Hier, Aboul Fotou, candidat à la présidentielle en 2012, a été cueilli chez lui par la police puis mis en détention comme 6 autres membres de son parti, l'Égypte forte. Mardi, c'est l'ancien président de la Cour des comptes qui a été arrêté. La purge touche indifféremment opposants politiques et hauts fonctionnaires. Au Caire, la correspondance de François Humfer Kataji.
C'est l'hécatombe, la paranoïa du président Abdel Fattah al-Sissi ne cesse de grandir. Le pouvoir égyptien a déjà éliminé de la course à la présidentielle 5 candidats, dont 3 militaires, un ancien premier ministre, Ahmed Shafik, assigné à résidence jusqu'à ce qu'il renonce à se présenter, un ancien chef d'état-major, kidnappé quelques jours avant le dépôt des candidatures et actuellement détenu dans un lieu tenu secret, un colonel condamné à 6 ans de prison. Sissi n'a plus aucun adversaire, face à lui un candidat fantoche qui ne cache pas son soutien au chef de l'État. Avec ce boulevard et les évidence d'un plébiscite, difficile donc d'imaginer que les nettoyages allaient continuer, mais la présidence égyptienne n'accepte aucune critique. Or, une alliance de 7 partis politiques incluant 150 personnalités a appelé officiellement au boycott de l'élection. 14 organisations de défense des droits de l'homme ont fait de même. Récemment, 2 opposants bien connus, Hicham Guennena, ancien président de la Cour des comptes, et Aboul Fotou, islamiste modéré, très populaire chez une partie de la jeunesse, ont été arrêtés chez eux par des dizaines de policiers. Leur tort, avoir accordé des interviews au Huffington Post et à Al Jazeera dans lesquelles ils accusent le président égyptien de violer la constitution et de monter des affaires de toutes pièces pour faire arrêter les opposants. Et la purge concerne aussi les services de l'État. Les licenciements se multiplient. Le chef des services de renseignement, Khaled Fawzi, pourtant ami de longue date de Sissi, a lui aussi été conduit vers la sortie et placé en résidence surveillée. Dans ces conditions, les observateurs se demandent si le président Sissi ne bataille pas actuellement pour éviter une révolution de palais, lui qui est arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État.
Le scrutin présidentiel doit se dérouler du 26 au 28 mars. Au lendemain de la fusillade dans un lycée de Parkland en Floride, le jeune tireur Nicolas Cruz a été inculpé de 17 meurtres avec préméditation. Renvoyé pour raisons disciplinaires, il était revenu dans l'établissement armé d'un fusil automatique et avait tiré sur les élèves et les enseignants. Le président américain a ordonné que les drapeaux soient mis en berne et Donald Trump vient de s'adresser à la nation, Grégory Phillips.
Oui, dans une allocution qui a duré 6 minutes en direct de la Maison Blanche et retransmise sur les chaînes de télévision américaine, qu'a dit Trump? Eh bien, qu'aucun enfant, aucun enseignant ne devrait se sentir en danger dans les écoles américaines. L'administration travaille avec les gouverneurs des différents États et les acteurs locaux pour renforcer la sécurité dans nos écoles et pour s'attaquer aussi aux problèmes délicats des maladies mentales, a dit Trump. Pas un mot, vous l'avez compris, sur le contrôle des armes, le gun control, comme on dit ici. Vous savez qu'après chaque fusillade, quasiment, malheureusement, cette question se pose, mais le président Trump refuse d'aborder cette question. Au moment de Las Vegas, de la tuerie de Las Vegas, il avait dit que c'était trop tôt. Cette fois-ci, aucun commentaire sur cette question ô combien délicate. À la fin de l'intervention, un journaliste crie au président: « Monsieur le Président, pourquoi est-ce que ça arrive aux États-Unis? Qu'allez-vous faire contre la circulation des armes ?» Et Donald Trump ne répond pas, rebrousse chemin et rentre dans son bureau.
Grégory Phillips en direct de Washington. C'est déjà vendredi en Chine et c'est donc le nouvel an lunaire, appelé aussi fête du printemps et la fête la plus importante pour les Chinois, mais aussi pour l'ensemble de l'Asie. Des célébrations sont organisées à travers le monde entier. Le Parti communiste chinois déclare d'ailleurs qu'il souhaite familiariser la communauté internationale avec la culture traditionnelle chinoise. Reportage de Dominique André et Shen Yanhu.
Après l'année du coq, place à l'année du chien qui revient après 12 années, comme le prévoit le zodiaque chinois. Le nouvel an lunaire, c'est le premier jour de l'année lunaire. C'est de loin la plus grande fête en Chine. Des centaines de millions de personnes voyagent à travers le pays pour retrouver leur famille. Le pays est décoré en rouge et or. À l'occasion du nouvel an, c'est la culture chinoise qui s'exprime à travers les rituels et la vie de famille. Le maoïsme n'aura pas réussi à l'effacer. Patrice Fava, sinologue de l'école française d'Extrême-Orient, observe les rites de la société chinoise depuis des décennies à Pékin, où il vit.
Par rapport à ce qui se passait à l'époque du maoïsme, il y a quand même une grande différence, c'est que le nouvel an est redevenu ce qu'il était, c'est-à-dire une grande fête religieuse. On entre cette année dans l'année du chien, et si on veut savoir véritablement ce qu'est le nouvel an, il faut aller d'abord dans les temples. Parce que le nouvel an, il y a deux aspects dans le nouvel an. C'est d'abord une grande réunion familiale. Il suffit d'aller dans les gares en ce moment pour se rendre compte que tous les Chinois rentrent chez eux. C'est pas tellement pour retrouver la famille, même si c'est très important, c'est surtout à cause du culte des ancêtres. On rentre chez soi pour aller prier les ancêtres, rendre hommage aux ancêtres, inviter les ancêtres à venir partager le banquet du nouvel an. Dans le nouvel an chinois, vous pourrez constater qu'il n'y a rien d'occidental.
Des offrandes sont faites aux ancêtres, mais les vivants se retrouvent aussi pour des agapes préparées de longue date parce qu'elles sont coûteuses. La foire du Nouvel An au Palais de l'Agriculture à Pékin, c'est un peu comme le Salon de l'Agriculture à Paris. On y trouve des spécialités de tout le pays, du thé, des noix, des montagnes du Yunnan, le fameux alcool de riz de Zhejiang, des crevettes séchées pour les Jiaozi, les raviolis du Nord, et des boules de riz gluant pour le Sud. Ces trois vieilles amies pékinoises sont reparties avec des paniers bien chargés.
Le premier jour du nouvel an, on fait des raviolis. Le deuxième jour, les filles mariées quittent leur belle famille pour visiter leurs parents. Bien sûr qu'au sud, les gens mangent plutôt des tangyuan.
Moi, je suis originaire du nord, moitié du sud. Que ce soit des raviolis ou des tangyuan, je dois tout manger. Le nouvel an d'aujourd'hui est totalement différent de celui de notre enfance.
Maintenant, dans la vie de tous les jours, il ne nous manque rien. C'est pas comme quand on était petit, on avait peu d'occasion de manger de la viande ou d'autres bonnes nourritures. Tout le monde attendait le nouvel an. Maintenant, c'est tous les jours qu'on trouve de tout. Il n'y a pas de différence avec le nouvel an. La plus grande différence est que ces jours-là, tout le monde se voit, on est ensemble.
Le nouvel an chinois, c'est la même chose que Shun Tie, la fête du printemps, basée autrefois sur le rythme du calendrier agricole. Monsieur Wang accroche deux lanternes rouges à l'entrée de sa maison et il affiche le caractère signifiant le bonheur.
C'est la tradition pour les Chinois. La fête du printemps, c'est pour accueillir le printemps qui va arriver.
c'est quoi au fait l'année du chien, de l'action et du changement de style de vie. Enfin, c'est ce que disent les astrologues.
Dominique André, correspondante de France Culture à Pékin. Et en ce jour de Nouvel An chinois, le temps sera perturbé de l'Aquitaine à l'Alsace et aux Alpes du Nord. Du sud de l'Aquitaine au pourtour méditerranéen, il y aura de belles périodes ensoleillées. Ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures varieront le matin entre moins 1 près des frontières du Nord et 10 sur le sud-ouest. L'après-midi, il fera de 6 à 18 degrés. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.